Radio Okapi. Belinda Bosuma à la présentation de votre journal.
Au moins 1 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence au nord, sud Kivu et en Ituri. Situation consécutive au déplacement des populations suite aux affrontements entre l'armée et le M23 dans le Masisi notamment. Ceci ressort d'un rapport du PAM sur l'évolution de la situation humanitaire à l'est de la RDC. Les autorités du Congo-Brazzaville interdisent à toutes les embarcations de Kwamout en RDC d'emprunter leurs rives pour atteindre la province de l'Équateur. Cette décision fait suite à l'attaque la semaine dernière d'une embarcation qui quittait Kwamout pour l'Équateur en passant par un village de Brazzaville, attaque ayant causé des morts et des disparus. Madame, Messieurs, bonjour. La situation humanitaire continue à se dégrader ces derniers mois au nord et au sud Kivu ainsi qu'en Ituri. Les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Masisi ont poussé plus de 10 000 familles à fuir leurs entités pour se réfugier dans les camps à Bulengo et Lushagara autour de Goma, pendant que d'autres ménages ont pris la direction du sud Kivu. C'est ce qu'indique le dernier rapport du Programme alimentaire mondial sur l'évolution de la situation humanitaire à l'est de la RDC. D'après le PAM, au moins 1 million de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence dans ces 3 provinces. Sifa Maguru.
Dans son dernier rapport du 16 mars sur la situation humanitaire, le PAM déplore que les familles déplacées installées depuis plusieurs mois maintenant dans les camps à Nyiragongo et Rutshuru ne puissent pas rentrer chez elles en raison des affrontements, malgré les cessez-le-feu annoncés depuis le 7 mars 2023. En Ituri, la coopérative pour le développement du Congo Codeco et les groupes terroristes ADF multiplient les attaques, notamment à Drodro, et provoquent un grand nombre de déplacements vers les camps de Ro qui hébergent actuellement plus de 70 000 personnes. Ces personnes déplacées dans l'Est ont plus besoin de l'eau, de la nourriture, de l'hygiène et assainissement, ainsi que de l'éducation pour leurs enfants. Le PAM ajoute que ces personnes qui fuient la violence sont poussées plus loin dans les zones inaccessibles où le PAM est forcé de suspendre ses opérations. Le PAM indique en outre avoir utilisé un long détour par le Rwanda et l'Ouganda pour atteindre les zones telles que Kaina et Lubero, un détour qui arrête tarder la distribution de l'aide alimentaire. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Entre-temps, une délégation du département paix et sécurité de l'Union africaine a effectué un bref séjour à Goma hier, conduite par l'ambassadeur du Burundi auprès de l'Union africaine. La délégation a voulu se rendre compte de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans le Nord Kivu. Accueillis à l'aéroport de Goma par le gouverneur Constant Ndima, ces diplomates ont ensuite eu des échanges avec les autorités congolaises. La rencontre était élargie à la MONUSCO, aux responsables militaires de la force régionale de l'EAC déployée à Goma, au mécanisme ad hoc de vérification, ainsi qu'à la société civile. Cette délégation a également rendu visite aux déplacés de guerre à Kanyaruchinya. Nord Kivu toujours, le diocèse catholique de Butembo Beni dénonce l'incursion des bandits armés dont a été victime le théologa Saint-Octave de Vulindi mardi soir à Butembo. Dans un communiqué rendu public hier, Monseigneur l'évêque Sikuli Paluku Meshisedek dit déplorer la perte des biens matériels ainsi que des cas de blessures enregistrés au cours de cette incursion. Il salue cependant l'intervention des forces de sécurité et de défense ainsi que des habitants voisins de ce grand séminaire, ce qui a permis d'éviter le pire. Cette autorité ecclésiastique appelle tous ceux qui sèment la terreur dans la région de revenir à la raison par la conversion en Dieu, car ce dernier ne désire pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive, conclut le communiqué. Pendant ce temps, le Parlement des jeunes de l'Ituri déplore le retard pris dans le démarrage du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, PDDRCS, qui, selon cette organisation, constitue un espoir de retour d'une paix durable dans cette province. Le président du Parlement des jeunes de l'Ituri l'a fait savoir mardi lors d'un point de presse à Bunia. Parlant de la situation sécuritaire, Gloire Abassi la qualifie de volatile dans plusieurs entités des territoires de Djougou et de Mahagi. Selon lui, l'insécurité persiste en dépit des efforts fournis par les autorités pour rétablir l'ordre. Il invite le gouvernement à engager des moyens conséquents pour assurer la prise en charge des miliciens dont plusieurs sont prêts à déposer les armes. Gloire Abassi est au micro de Ezekiel Mouzalia.
Aujourd'hui, l'Ituri n'a pas besoin d'enregistrer encore des morts, moins encore des déplacements massifs de la population. Mais l'heure aujourd'hui pour l'Ituri, c'est la reconstruction de cette partie du pays grâce à l'implication de ses fils et filles. Le Parlement des jeunes décrit les retards qui s'observent dans les lancements du PDRCS. Si le programme du PDRCS était déjà lancé dans notre chère province, l'Ituri ne pouvait pas continuer à enregistrer ces cas de morts. Les autorités du PDRCS doivent certainement faire de ça une urgence afin de sauver la situation de la population itourienne, mais particulièrement les jeunes. Nous sommes en train de regretter la dégradation de la situation sécuritaire où nous n'arrivons pas à circuler librement comme on devrait être dans notre cher pays. Une manière de demander au chef de l'État de faciliter la tâche aux paisibles populations qui ne sait à quelle cesse se vouer.
J'invite toutes les parties engagées dans le processus du dialogue intracommunautaire EMA, convoqué par le directoire de l'association culturelle NT, à préserver la cohésion de la communauté et de s'abstenir des actes de violence. Ces propos sont de l'ex-seigneur de guerre Thomas Lubanga. S'exprimant dans un communiqué, Thomas Lubanga, membre de cette communauté, affirme que les violences ne feront qu'aggraver les souffrances de la population et porter atteinte à l'ordre public. Il dit avoir constaté que le dialogue intra-EMA, qui s'est ouvert à Bounia mardi, suscite beaucoup de controverses et crée des divisions au sein de la communauté, une situation que ce notable et chef du parti Union des Patriotes Congolais UPC dit déplorer. En réaction, le secrétaire général de l'UPC précise que Thomas Lubanga s'exprime en tant que membre de la communauté EMA et non en sa qualité de chef de l'UPC. Navigation sur le fleuve Congo. Les autorités du Congo-Brazzaville interdisent à toutes les embarcations de Kwamout en RDC d'emprunter leurs rives pour atteindre la province de l'Équateur. Elles ont par conséquent renforcé le dispositif sécuritaire dans leurs villages, notamment à Kaba l'école. Objectif, empêcher justement les embarcations en provenance de Kwamout de naviguer dans leurs eaux pour ainsi échapper aux hommes armés qui insécurisent cette contrée. La décision des autorités de Brazzaville fait suite à l'attaque la semaine dernière d'une embarcation en provenance de Kwamout pour l'Équateur dans le village Kaba l'école. On a déploré des pertes en vies humaines et plus de 100 disparus. Le président de la société civile de Kwamout qui livre l'information demande que des dispositions sécuritaires urgentes soient prises par les autorités de la RDC pour mettre hors d'état de nuire tous ces hommes armés qui gênent la navigation dans la région. Martin Fouta a été joint par Irène Boma.
La situation ne fait que s'empirer puisque actuellement le gouvernement du Congo populaire a placé le militaire le long de tout le village se trouvant sur le fleuve, empêchant les baleinières de la RDC de passer par là après les attaques qu'ils ont attaqué ces villages. Ils ont placé à Kaba, Kunzulu, Malès. Actuellement, ce sont les embarcations qui n'ont pas de destination Kwamoutou. C'est là qu'ils payent vraiment des montants colossaux aux assaillants de ce côté. Mais pour les embarcations de Kwamoutou, donc la décision du Congo-Brazzaville est prise à l'instant. Nous demandons vraiment à notre gouvernement d'enlever tous ces assaillants qui sont sur le bord du fleuve et de cela, ça pouvait permettre notre passage rapidement parce que nous sommes maintenant bloqués. La voie routière ne nous permet pas. Maintenant, la voie fluviale, la seule voie qui nous était restée, maintenant pose le problème à ces jours.
Joint à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la province du Maïndombe dit se réserver de tout commentaire sur cette décision des autorités de Brazzaville. Néanmoins, il affirme que la gestion de ce conflit de Kwamout est entre les mains des autorités au niveau national. Toutefois, en province, des efforts sont en train d'être fournis pour restaurer la paix à Kwamout, ajoute-t-il. Retournons à Goma pour parler de ce cri de détresse d'une ONG en faveur d'une jeune dame d'une vingtaine d'années. Elle a donné naissance à des quadruplets depuis le 3 janvier dernier à Kirotche dans le Massissi avant d'être transférée à Goma. Après avoir reçu les soins appropriés à l'hôpital provincial de Goma, bien que l'un des quatre bébés n'a pas survécu, cette femme vulnérable est restée bloquée à l'hôpital par manque des moyens pour honorer la facture. C'est l'ONG Foyer de développement pour la promotion des personnes indigènes et en détresse qui a mobilisé les fonds nécessaires pour honorer la facture et accompagner la jeune maman dans sa famille à quelques encablures de Goma. Vicar Batundi, le coordonnateur de cette ONG, lance un appel aux personnes de bonne volonté pour assister cette jeune femme en détresse qui ne peut pas rentrer chez elle à Kirotche à cause de l'insécurité. On écoute Vicar Batundi.
Nous avons constaté que la dame était dans l'incapacité d'honorer la facture, c'est pourquoi elle venait de passer des mois à l'hôpital. Ça nous a préoccupés et à notre tour, nous avons contacté l'aide de nos partenaires, notamment Secours Populaire Français, parce que nous avons une subvention d'aide d'urgence. Nous avons décidé d'apporter assistance à cette dame qui vient de sortir aujourd'hui. L'hôpital l'avait conseillé de donner un supplément alimentaire pour la santé des enfants. Donc nous lançons un SOS à toute personne de bonne volonté d'intervenir pour sauver la vie de ces enfants.
Dans l'actualité, sachez aussi que le gouvernement provincial du Sud-Kivu a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Décision rendue à Kinshasa hier, la Cour constitutionnelle siégeait sur la requête en inconstitutionnalité de la motion de censure votée par un groupe de députés provinciaux le 24 novembre 2022. C'est la quatrième tentative de déchéance du gouvernement provincial dirigé par Théo Kasingwabidje. Réagissant à cette décision, le gouverneur du Sud-Kivu dit remercier la justice congolaise pour avoir promu l'état des droits. Sud-Kivu toujours, l'administrateur du territoire de Fizi dit espérer sur les travaux du programme de développement à la base de 145 territoires pour le développement de son entité. D'après Sami Kalonji, Fizi est l'un des territoires stratégiques du Sud-Kivu, riche dans son sol et sous-sol. Il est agricole, minier et possède aussi d'autres ressources naturelles. Cependant, ce territoire a grandement besoin des routes pour relier d'autres parties du pays. Sami Kalonji, administrateur du territoire de Fizi, est au micro de Emmanuel Elamenji.
Vous savez que Fizi, c'est un territoire très vaste et un territoire agricole. Et depuis que Dieu a créé Fizi, son sol n'a jamais connu et les intrants chimiques. Donc, ce que vous dire qu'avec les routes de agricoles, si ces routes sont réellement construites comme tout est déjà planifié, je vous assure que Fizi, c'est là où il y a les haricots, Fizi, c'est là où il y a le maïs, Fizi, c'est là où il y a les poissons.
Fizi est sur le lac Tanganyika.
Le lac Tanganyika, franchement, est-ce que c'est Fizi qui fait la fierté pour les gens qui vivent à Misisi et qui, les gens qui vivent à Bukavu, les braises, la farine de manioc blanche, la bonne qualité, ça vient de Kilembwe. Donc, c'est dans les Fizi. Donc,
Fizi a aussi des minerais.
Fizi a des minerais. Et Fizi, nous avons initié. C'est un programme que j'ai moi personnellement initié, le programme de reboisement. Vous savez, parce que Fizi est en train d'être détruit. Toutes les collines sont nues, en tout cas déboisées. Et nous sommes en train d'initier d'ailleurs. J'ai déjà plus de 15 000 plantilles que je suis moi-même en train de reboiser la colline qui occupe les bureaux administratifs.
Parlons de cette suite de la série thématique sur la convention signée entre la RDC et les entreprises chinoises. Ce contrat est qualifié de léonin par le gouvernement congolais qui appelle à sa révisitation. Pour Claude Kabemba, directeur de l'ONG Sarwa, Observatoire pour les ressources naturelles, cette énième révisitation est une opportunité pour le gouvernement congolais de revoir sa gouvernance du secteur minier dans l'ensemble. Cela pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Claude Kabemba est au micro de Cynthia Bachizi.
Si les Chinois n'ont pas respecté en présence d'un gouvernement établi, à qui incombe la faute? Parce que je vois très mal comment un contrat signé, on a accepté les contenus du contrat, et un partenaire n'arrive pas à satisfaire ce contrat et on reste silencieux pendant très longtemps. Tout le monde savait que les Chinois n'arrivaient pas à appliquer le contrat comme il le fallait depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on connaît il y a très longtemps. Donc il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Est-ce que c'est une faute des Chinois ou c'est une faute des Congolais? Parce que si on ne se pose pas cette question, nous risquons de retomber dans les mêmes erreurs. On a déjà renégocié des contrats avant qui n'avaient rien résolu et nous sommes retombés dans les mêmes erreurs. Il y a un problème de fond à l'intérieur du gouvernement que nous devons faire. Le contrat chinois nous donne une opportunité encore de revoir notre capacité interne de négocier les contrats, mais aussi de les exécuter. Je pense que nous devons faire un pas en arrière, regarder d'une façon globale comment nous devons résoudre le problème qui affecte le secteur minier congolais.
Actualité internationale. La grande conférence de l'ONU sur l'eau a débuté hier à New York. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars a été marquée par un appel urgent du secrétaire général de l'ONU à gérer durablement la ressource la plus importante du monde. L'ONU signale qu'il faut se préparer à une crise de l'eau douce en raison du changement climatique et de la pollution. Les Nations Unies estiment que 2,3 milliards d'habitants vivent dans des pays en situation de stress hydrique et que cela créera inexorablement des tensions. Ceci est contenu dans un rapport mondial des Nations Unies publié la veille de l'événement. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Alain Goya, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.